Bonjour, vous allez bien? Ça piquait un peu ce matin quand même, hein, ça va bien. Mais... Je devrais avoir débarqué dans quelques minutes les retardataires qui ont oublié d'ailleurs. Bon, c'est vrai que ça piquait ce matin, mais pour moi, c'est un jour un petit peu spécial. Un peu spécial pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'anniversaire de ma tendre épouse. Allez. Oui, elle fête aujourd'hui, c'est toujours aussi jeune, ma chère. Tu te bonifies avec le temps et merci pour tout ce que tu apportes à la communauté et à notre famille. Mais c'est aussi un jour spécial, car c'est la première fois que je reprends la parole devant vous pour apporter un message depuis notre retour de Perpignan l'été dernier, au mois d'août dernier. Alors quand on nous a demandé de choisir un thème à travers une liste proposée, hein, pour le premier quadrimestre, eh bien, j'avoue que je me suis un peu jeté sur le mien, car c'était un thème qui me tenait vraiment, vraiment à cœur. Ce thème, c'est la communauté. Alors, je ne sais pas si on peut afficher le PowerPoint, si ça va marcher. Voilà, la communauté. Ce thème de la communauté, il m'interpelle tout particulièrement, car pendant des années, à Perpignan, je peux vous dire que le CMLK, eh bien, il m'a manqué. Mais aussi, au-delà du CMLK, l'unité des chrétiens au sein de la communauté chrétienne universelle, c'est quelque chose que j'ai dans le cœur profondément. Je l'ai déjà partagé avec certains d'entre vous. Mais le Seigneur m'a fait un cadeau à quelques reprises de pouvoir voir l'Église à travers ce que je pense être ses yeux. C'est bizarre, hein, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais c'était vraiment une magnifique expérience qui m'a marqué à vie, qui m'a ému aux larmes, car j'ai pu ressentir au plus profond de moi comment Dieu aimait son Église, son peuple, sa communauté. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, on dit que l'Église s'appelle l'épouse de Christ. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que ce cadeau, je l'ai vécu aussi ailleurs qu'au CMLK. Je me souviens d'une fois aux USA, hein, lors d'une convention avec Alissa, dans une assemblée où je connaissais personne. Et pourtant, je ressentais un amour fou dans une assemblée où, encore une fois, je ne connaissais personne, mais parce qu'ils adoraient le Seigneur. C'est pour ça que je vous dis que je pense que c'était un vrai cadeau, parce qu'il n'y avait aucune raison que j'éprouve de l'amour pour quelqu'un avec qui je n'avais jamais parlé pour le moment. Dieu nous aime individuellement. Il s'est donné pour chacun d'entre nous, nous qui sommes uniques. Il s'est donné à la croix. Mais vous savez, il aime aussi quand on est ensemble, quand nous sommes une communauté d'adorateurs, pour l'honorer. Pourtant, vous savez, la communauté est largement mise à mal depuis quelques années maintenant, et encore plus depuis la crise sanitaire, me semble-t-il. Il y a des chrétiens qui se sont habitués à vivre leur culte très confortablement dans leur canapé, à travers leur écran, et se contentent de le vivre à distance. En plus, ils n'ont plus à payer le prix du gasoil, ni à se lever quand le culte commence une heure plus tôt. Souvent, je l'ai déjà entendu dire, certains disent même que c'est une vraie chance, car aujourd'hui, ils ont un large choix de messages différents dans chaque église, à des milliers de kilomètres, avec des super pasteurs. Je ne dis pas que c'est mauvais de se nourrir des prédications ou de cultes via un iPad, loin de là, car je suis sûr que ça peut être enrichissant. Mais je me pose la question de savoir si réellement une vie loin de la communauté physique où des frères se rencontrent, eh bien, est-ce que ça peut être réellement satisfaisant? À Perpignan, par exemple, notre église n'a pas encore repris sous son format pré-Covid. Il y a d'autres chrétiens qui semblent aussi se satisfaire de suivre le culte à travers des Zooms. Alors, ce constat soulève en moi une première question. Est-ce que... On peut passer à la slide. Est-ce que... Ah, c'est moi qui l'ai. Voilà. La première question, est-ce que réellement, nous avons besoin d'une vie en communauté pour vivre une foi épanouie? Est-ce que réellement, j'ai besoin d'aller à l'église pour vivre une foi satisfaisante? J'irai même plus loin. Est-ce que dans la Bible, on nous enseigne à rechercher et pratiquer la vie en communauté? Et du coup, c'est la question sous-jacente, est-ce que des temps sincères en culte personnel, eh ben, ils ne seraient pas autosuffisants? Je vais essayer de donner quatre points qui montrent à quel point la vie en communauté est importante et que ce n'est pas seulement une option dans notre vie spirituelle. Alors, inutile d'aller bien loin dans la Bible pour trouver mon premier point, dans la Genèse. Dieu, par nature, est déjà en lui-même une communauté parfaitement unie. Dieu est une communauté de personnes dès le commencement du monde. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu, dès l'origine du monde, était dans un mode de relation. D'ailleurs, dès les premiers chapitres de la Genèse, le pronom personnel pluriel est utilisé dans certains versets. Vous les connaissez ces versets ? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Un peu plus loin, avec la tour de Babel, allons, descendons et là confondons leur langage. Comme Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance, nous sommes aussi créés pour entretenir des relations. Des relations avec lui, bien sûr, mais les uns les autres. C'est étonnant, dans Genèse 2, verset 18, Dieu vient de créer Adam, un être humain tellement sophistiqué. Et pourtant, on peut lire à ce verset, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La suite, vous la connaissez, le péché d'Adam et Ève, la désobéissance et la chute. Et cette chute, elle a eu des conséquences dévastatrices, car elle a séparé Dieu de l'homme, mais elle a aussi cassé une certaine unité entre Adam et Ève. Dès la désobéissance, ils subissent, ils portent le regard de l'autre, ils se rendent compte de leur nudité, et bien entendu, ils se rejettent la faute. « C'est la faute de la femme que tu as mise à côté de moi », dira Adam. Heureusement, Jésus-Christ nous a offert le moyen, en prenant notre péché à la croix, de nous approcher de nouveau de lui, mais il souhaite aussi transformer nos relations avec autrui. Réparer ce qui a été cassé, et en particulier, je pense, dans notre communauté. Dieu est un Dieu de relations, et nous sommes à son image. Dans Matthieu 22, Jésus est questionné par des pharisiens. Là aussi, je pense que vous le connaissez, ce passage-là. Ils essaient de le piéger et lui posent la question « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Vous connaissez sa réponse. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Mais voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Un des deux plus grands commandements est d'aimer le prochain. Donc, une grande preuve de notre amour pour Dieu se trouve aussi dans notre amour pour nos frères. C'est comme si le Seigneur il nous disait « Si vous m'aimez, vous aimerez aussi ce que j'aime. » J'ai une excellente nouvelle pour vous. Nous avons une opportunité exceptionnelle de suivre ce commandement dans l'Église. Une formidable opportunité d'aimer notre voisin qui est actuellement à votre gauche ou à votre droite. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à aimer à travers la tablette. Je ne sais pas. Et quand Andrew, il a sa grand-mère ou qui nous a au téléphone et à travers FaceTime, etc., son premier réflexe, c'est de tendre les bras, comme si on allait sortir et le prendre. Il veut de la relation, il veut du contact, il veut du physique. Dieu nous demande donc de grandir dans notre relation personnelle avec lui et de l'aimer. Et ça, je peux le faire dans ma chambre, dans mon espace personnel qui me va bien. Mais pour le second commandement, la communauté est le formidable moyen de mettre en application l'amour du prochain. Vous connaissez certainement ce verset dans Jean 4, verset 20. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Quand je réfléchissais à l'importance de la communauté, Troisième point, un troisième passage de la Bible est venu à mon esprit. Celui dans 1 Corinthiens 12. On va commencer au verset le 12 directement. On pourrait aller au 7, mais je vais aller au 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », cela ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qui nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est beau, hein ? J'aurais pu me contenter de ça et on aurait gagné 25 minutes chacun. Nous sommes le corps de Christ, chacun pour sa part. Dans le contexte de ce verset, Dieu explique par cette image la diversité des dons. Si vous remontez un petit peu, par l'image du corps, il explique aussi la diversité des dons qu'il a donnés à chacun de ses enfants. La communauté est donc l'endroit où on peut jouir, profiter de la diversité des dons donnés particulièrement à chacun d'entre vous et vraiment avoir l'impression d'appartenir au corps du Christ. Je sais pas vous, mais moi, personnellement, j'ai pas envie d'être une oreille toute seule. C'est super sympa, une oreille, mais toute seule, bof. Le week-end dernier, nous étions au ski avec des amis et nous avons eu un temps très fort autour du Seigneur. On était dimanche matin en pyjama, tous décoiffés, tout ça, mais c'était super. L'onction était là, comme quoi des fois. Et puis Flo, il nous a partagé une image qu'il avait reçue. Il voyait une terrasse. Il n'y a que Flo qui peut avoir des images comme
elle
ça.
Elle était quand même derrière la vitre.
Ah ouais. Une terrasse. Alors, ce n'était pas celle qu'on avait vue, mais elle ressemblait à celle qu'on a chez moi. Pas une terrasse toute plate, mais une qui est faite avec plein de pierres. Un petit peu comme ça. Une terrasse faite un peu à l'ancienne. Il ressentait, Flo, que chacun de nous était comme ces pierres. Des petites, des grosses, des formes différentes, et qu'on avait besoin de toutes les formes. Mais pour qu'elles tiennent bien ensemble et qu'elles forment une dalle équilibrée, qui ne se casse pas, eh bien on a besoin du ciment entre chacune de ces pierres. Chaque pierre représente les membres du corps du Christ, vous, moi, qui formons la communauté et l'Église universelle. Qu'est-ce qui nous lie ? Jésus, le ciment. Si une fissure apparaît, remettons du ciment, redemandons à Jésus d'intervenir dans nos relations. Nous ne sommes pas appelés à avoir tous la même forme, tous les mêmes dons. L'Église doit être une communauté qui fait preuve d'unité dans la diversité. Une communauté dans laquelle les barrières racistes, sexistes, sociales, élitistes, elles sont renversées. Une communauté où les générations aussi se mélangent. Elles s'apprécient, elles s'enrichissent mutuellement. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. La vie communautaire dans le corps du Christ n'est pas facultative. Même s'il n'est pas facile toujours de vivre avec les autres. Mais moi, je suis convaincu qu'on s'appauvrit, sans l'autre. La communauté crée les conditions favorables pour l'enrichissement relationnel, la confiance, l'amour, l'acceptation, la soumission aussi mutuelle, dans la crainte et l'amour du Christ. Pour mon quatrième point, j'aimerais vous lire une partie de la prière sacerdotale de Jésus. Jean 17, versets 20 à 23. Là aussi, je peux vous dire que c'est des versets fantastiques. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Cette prière de Jésus, elle est magnifique. Nous l'avons lue entièrement, c'était mercredi dernier à la Réunion Maison. Et elle est d'autant plus quand on la replace dans son contexte. Parce que vous savez que c'est juste après cette prière que Jésus va être arrêté et qu'il va être conduit pour être jugé. Qu'est-ce qui préoccupe Jésus à ce moment-là, alors même qu'il va être arrêté? L'unité de la communauté. Le Seigneur a déclaré que l'unité entre enfants de Dieu serait pour le monde la preuve que le Sauveur est venu. Et dans sa prière sacerdotale, en faveur de ses disciples et de ceux qui croiront en lui par leur témoignage, ça c'est nous, il parle de nous, Jésus a demandé que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est aussi une sacrée responsabilité pour nous. Vous voulez que de nouvelles personnes suivent Jésus, j'en suis sûr. Vous voulez que de nouvelles personnes trouvent la foi? Eh bien, soyons un. Pratiquons la vie en communauté. Chérissons l'unité entre nous. J'ai bien aimé ce qu'a dit Gérard tout à l'heure, distribuer l'amour, pour voir aussi la majesté de Dieu, distribuer l'amour. Mais aussi avec les autres églises chrétiennes. Vous connaissez ce chant, je ne sais pas si c'est inversé d'ailleurs, certainement. Et le monde verra que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Je pense qu'avec ces quatre arguments, nous sommes d'accord pour dire que la religion qui est souhaitée par notre Dieu n'est pas une affaire privée, que chacun pratique dans son petit coin. La relation verticale avec le Christ, que nous avons en direct avec lui, elle est primordiale, c'est sûr. Nous devons prendre soin de cette relation de un à un, cultiver l'intimité. Mais justement, l'intensification de notre relation individuelle, elle doit se répercuter sur tous les autres aspects de notre vie et influencer chacune de nos relations horizontales. La maturité chrétienne, j'en suis sûr, elle ne s'acquiert pas dans l'isolement, mais elle se cultive au contact des autres. La Bible est donc claire, précise. Une vie spirituelle seule, en dehors de toute communauté, elle ne peut pas être satisfaisante. Elle serait largement incomplète. Alors nous avons répondu à notre première question, mais maintenant je me suis mis à réfléchir à quels pourraient être concrètement les défis que nous pourrions nous lancer en tant que communauté. Au week-end de jeûne, j'ai partagé le dimanche matin avec Alissa sur 10 clés qui me semblaient importantes pour vivre une communauté authentique. Alors, j'ai repris quelques éléments de ce partage, car j'ai été encouragé d'ailleurs à ne pas en parler qu'aux jeunes, mais que toute la communauté l'entende. Alors, je ne vais pas la refaire en entier, parce que ça avait déjà duré un petit peu de temps, mais j'ai choisi quelques points qui me semblaient importants. Quels pourraient être les défis de notre communauté? Notre communauté Premier point, pour moi, ça doit être une réponse forte à l'individualisme qui sévit dans notre société. Vous savez, le monde moderne, et en particulier le monde occidental, a détruit l'esprit communautaire. Il l'a attaqué sur plusieurs fronts. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais il me semble qu'on constate autour de nous une recherche toujours plus forte d'autonomie, d'individualisme. Je fais ce que je veux, quand je veux, si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Le nombre de posts sur les réseaux sociaux qui sont ça, qui mettent cette valeur, parce que ça devient une valeur en disant « je peux vivre tout ce que je veux, peu importe, toi ce que tu penses, moi je suis bien ». Ce type de phrase a vraiment fleuri, c'est devenu une valeur, et c'est génial en fait, finalement, tu n'en as plus rien à faire des autres. Notre culture se caractérise véritablement par son insistance sur l'indépendance, le contrôle personnel. Finalement, c'est tout pour ma tronche, s'il n'y a pas une autre expression que j'aurais pu employer. Et s'il y en a qui en doutent, je vais vous montrer une image, vous l'avez vu déjà, qui va vous faire changer d'avis. Je vais vous montrer une image. Vous l'avez vu. Nous étions prêts à nous battre pour du papier toilette. L'individualisme a son apogée. C'était le début de la pandémie. Nous sommes face à un virus que nous ne connaissons pas. Tout le monde a peur de ce que l'avenir nous réserve. Eh bien, dans ce cas-là, l'individualisme de l'homme ressort plus fort que jamais. Être sûr de ne pas manquer de papier toilette, quitte à se battre pour. Et c'est justement cette folie, cette surconsommation qui a amené la rupture de stock. L'homme, parfois, il marche un peu sur la tête, je ne sais pas ce que vous en pensez. La spiritualité liée à la communauté peut parfois nous coûter, c'est vrai, parce qu'elle nous oblige à aller à contre-courant de notre tendance déchue de l'individualisation et au contrôle de notre vie. Mais l'Écriture nous enseigne que le jeu en vaut la chandelle. Car nous éprouvons plus de joie quand nous partageons avec les autres. Je souhaite vraiment de tout cœur que notre Église soit un contre-courant dans ce domaine, que nous prenions exemple sur le modèle de Jésus-Christ, que nous soyons serviteurs les uns des autres, que nous soyons prêts à partager le papier toilette quand il en manque, que nous prenions plaisir à aider, à rendre service, à honorer l'autre. C'est ça, on est fait pour ça. On a un gros défi là-dessus. Je sais pas, c'était celui-là le point. Le deuxième défi, soyons vrais. C'est bas les masques. Hein. Bas les masques. Dans la vraie communion fraternelle, les gens, ils se montrent authentiques. La véritable communion ne peut pas être superficielle. Vous savez, dans la communauté que nous voulons vivre, on ne peut pas se contenter de parler de la pluie, du beau temps, et au contraire, de ne jamais un peu ouvrir nos cœurs à l'autre. Parfois, cela passe par des moments de vérité qui ne sont pas hyper évidents à vivre. Parfois, cela passe par des choses difficiles à dire. Mais l'important, c'est de pouvoir exprimer dans notre communauté ce que l'on ressent. C'est la meilleure façon réellement de construire une communion authentique, une communauté authentique. Franchement, il est bon de pouvoir dire ce qui se passe dans nos vies, ce qui nous blesse, partager nos sentiments, nos échecs, nos doutes, nos peurs, mais nos joies. Et lorsqu'on demande à un frère de l'aide et de la prière, c'est là finalement qu'on touche à la vraie communion authentique. Une question qu'on peut se poser, hein. Quel est le niveau de franchise que nous avons dans notre assemblée? Bien fait, d'abord, la question elle est pour nous. Quel est mon niveau de franchise par rapport à mes frères et mes sœurs? Il faut évidemment du courage, de l'humilité pour être authentique, parce que parfois on peut avoir peur d'être remis en question, rejeté ou blessé, mais notre communauté doit pouvoir offrir un lieu où la grâce est manifestée, où les fautes sont pardonnées. Et nous pouvons manifester cette grâce, par exemple, dans nos petits groupes de maison. C'est plus facile, on ne va pas passer les uns après les autres au micro pour dire un petit peu ce qu'on ressent et nos difficultés, mais les groupes de maison, c'est super pour ça. Et on crée de la confiance, et on se retrouve ensemble, et on s'encourage, et chaque semaine, on demande comment ça va, est-ce que c'est mieux. C'est hyper important, ça. Le conseil que nous donne la Bible est simple. renonçons au mensonge et que chacun de nous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Troisième point, choisir d'encourager et non de critiquer. J'ai mis un verset. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Vous savez, c'est tellement facile, parfois, de ne pas s'engager. C'est tellement facile de rester tranquille sur sa chaise en tant que grand juge et de donner les bons, les mauvais points sur ce qui se passe dans notre communauté. Ah, le message ce matin, c'était vraiment pas top. Il aurait mieux fait de rester à Perpignan, celui-là. Ou l'activité du groupe d'hommes, c'était pas terrible. La prochaine fois, j'espère qu'ils seront un peu plus imaginatifs. C'est tellement facile d'être le spectateur de ce qui ne va pas et de critiquer ceux qui servent et s'engagent. Alors, Dieu nous recommande très souvent dans la Bible de ne pas critiquer, de ne pas comparer, de ne pas juger, de ne pas mépriser les chrétiens dont des fois les convictions ou les actes sont différents des nôtres. Ça peut arriver. Parce qu'à chaque fois que je juge, à chaque fois que je juge un chrétien, ben c'est comme si je perdais un peu de ma communion avec Dieu. Car quand je juge, je me place au-dessus. Cela révèle finalement un peu au grand jour mon orgueil. Quand on décide de critiquer, quand on décide de juger, bien, le verset nous dit que l'on s'expose aussi au jugement, parce qu'un jour, nous serons aussi face au Seigneur. Et pire que ça encore, ben, je cause aussi du tort à la communion fraternelle de l'Église. Les conséquences de l'esprit critique ou de la médisance, elles sont graves. Il faut que l'on entende ça. Et c'est le travail du diable qui consiste à accuser et à critiquer les membres de la famille de Dieu. Et en définitive, à chaque fois que nous limitons, ben, on travaille un peu pour lui. Tout le temps que nous passons à comparer ou à critiquer les croyants, ben, nous devrions le passer à renforcer l'unité fraternelle. Au contraire, la communauté trouve sa force dans l'encouragement réciproque. Nous sommes tous plus fermes dans la foi lorsque les autres marchent avec nous et nous encouragent. Nous irons plus loin ensemble si nous pratiquons l'encouragement, si nous nous serrons les coudes quand viendront les difficultés et les épreuves. Et au-delà de l'encouragement, pratiquons la compassion. Comme des élus de Dieu, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. C'est quoi la compassion? La compassion, elle ne se limite pas au fait de donner votre avis, de donner des solutions, d'offrir de l'aide superficielle, mais elle consiste à s'intéresser aux autres et à partager leurs souffrances. La compassion, elle concerne deux besoins humains fondamentaux. D'abord, celui d'être compris, et ensuite, celui de voir nos sentiments pris au sérieux. Chaque fois que vous écoutez et comprenez les sentiments de quelqu'un, eh bien, vous fortifiez la communion fraternelle. Le fait de trop se concentrer sur nous-mêmes, sur nos envies, sur nos passions, sur nos problèmes, ben des fois, ça nous empêche d'avoir de la compassion pour l'autre. Ces derniers mois, notre communauté du CMLK, certaines familles ont vécu de terribles épreuves. Personnellement, vous ne pouvez pas savoir comme j'étais fier de voir comment l'Église pouvait se mobiliser pour pratiquer la compassion. Ça doit faire partie de notre ADN. Parce que c'est dans ces moments-là que l'on doit prendre soin les uns des autres. Dans Jacques 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures de ce monde. Là aussi, c'est un point important. Concentrons-nous sur ce que nous avons en commun et non sur nos différences. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. En tant que chrétiens, nous avons un seul Seigneur, un seul corps, un seul but, un seul Père, un seul esprit, un seul espoir, une seule foi, un seul baptême et un même amour, nous partageons le même salut. Est-ce que tout ça, c'est pas beaucoup important que toutes les autres différences qui peuvent parfois nous éloigner. J'ai dit aux jeunes il y a 3 semaines, mais si les chrétiens utilisaient autant d'énergie pour annoncer l'évangile que pour essayer de convaincre l'autre sur des aspects non essentiels de la foi, ben, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup de conversions autour de nous. Hein. Le Seigneur veut l'unité. Et je suis sûr qu'il a de la peine au ciel quand nous nous divisons. Restons concentrés sur l'essentiel et apprenons à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Une citation que nous aimons beaucoup avec notre ami Vincent et que vous avez aussi certainement entendu. Dans l'essentiel, l'unité. Dans le non-essentiel, la liberté. En toute chose, l'amour. Les conflits, des fois, c'est le signe que l'on donne finalement trop d'importance à des questions secondaires, que la Bible nomme des opinions ou des discussions. Mais ce n'est pas l'Évangile qui, lui, est très simple. L'Église, malheureusement, n'est pas un lieu parfait. Certains, d'ailleurs, le pensent et du coup, ils peuvent parfois être déçus. L'Église n'est pas un lieu parfait, en tout cas, elle ne l'est plus depuis que j'ai mis un pied dedans. Parfois, nous risquons de nous décourager en réalisant que notre Église est loin de l'idéal, et pourtant nous devons l'aimer, malgré ses imperfections. Chercher l'Église parfaite, tout en critiquant la nôtre, c'est un peu une preuve d'immaturité. Mais aussi, accepter la réalité sans travailler à la perfection, ça peut être un signe d'autosatisfaction qui n'est pas mieux non plus. Hein. Alors la maturité, finalement, je pense qu'elle se situe entre ces deux extrêmes. Nous sommes parfois un peu déçus, nos assemblées. Ben, au lieu d'être choqués ou blessés, ben, nous devons nous rappeler que l'Église, elle est formée de pécheurs, y compris nous-mêmes. Et comme nous sommes tous pécheurs, nous nous blessons mutuellement. C'est aussi simple que ça, je dirais malheureusement. Parfois, on fait du mal sans le vouloir. Mais au lieu de quitter l'assemblée, ben, nous devons nous efforcer d'y vivre en paix et de tenter la réconciliation plutôt que la fuite. C'est comme ça que les relations deviennent plus fortes et que la communauté devient plus solide. On devrait avoir ce panneau à l'église. À l'entrée, personne parfaite s'abstenir. Réservé à ceux qui se reconnaissent pécheurs, qui ont besoin de grâce et veulent grandir. Si parfois vous avez le sentiment que l'Église ne vous nourrit pas assez, ou qu'elle ne vous propose pas ce que vous attendez, là, ça ne me semble pas être une raison suffisante pour la quitter. Peut-être justement, vous êtes appelé à rester dans cette communauté pour nourrir les autres, pour apporter vos dons, quand il y a des... pas les dents, dons, pour apporter vos dons, je vais y arriver, quand il y a des manquements. Mon dernier point, après je vais vous laisser tranquille, soyons chaleureux et accueillants. Combien d'entre nous pensons que l'un des points forts de notre communauté est son esprit de famille? Je ne vais pas faire lever les doigts, j'ai peur des réponses d'ailleurs. Combien d'entre nous pensons que l'un des points forts de notre communauté est son esprit de famille? En tout cas, moi je l'ai entendu plein de fois. Et j'en suis convaincu que c'est vraiment un point fort. Mais je peux poser aussi une autre question. Combien d'entre nous ont ressenti des difficultés, ou en rencontrent d'ailleurs encore, pour se sentir intégré à cette famille-là? Déjà, je ne peux pas poser la question à ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. Ces dernières semaines, j'ai eu quelques témoignages de frères et sœurs, enfin quelques deux, hein, je ne peux pas en faire toute une histoire, mais qui ont quand même partagé avec moi la difficulté d'intégration à notre communauté. Lors de leur arrivée notamment, quelqu'un m'a dit « on a passé des mois à venir au culte et à repartir comme si on n'était pas là ». Ça m'a profondément attristé, je vous le dis. Parce que mon désir, le désir de vous, j'imagine si je vous demande un après l'autre, ben c'est que chacun trouve sa place dans la terrasse, se sente accueilli dans la famille de Dieu. Alors là aussi, je pense que c'est une responsabilité de l'Assemblée. Aimer son prochain, prendre soin l'un de l'autre, commence par bien l'accueillir. Romains 15, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » J'aimerais conclure en rappelant que l'un des premiers objectifs du rassemblement des croyants, de notre communauté donc, c'est de créer un contexte favorable dans lequel nous pouvons nous encourager et nous édifier mutuellement. On a une riche diversité des dons, des types de tempéraments au sein du corps de Christ, au sein du CMLK. Et ça favorise la maturité spirituelle. Bien entendu, à condition que la diversité soit rendue féconde par l'Esprit du Seigneur. Et donc, on fait partie d'une communauté de pèlerins. On est en marche vers Dieu. Nous sommes tenus de nous assister, de nous instruire et de nous encourager les uns les autres pendant ce trajet. En tout cas, moi je suis ravi de faire ce trajet avec vous, dans cette communauté. Je remercie tellement le Seigneur pour la communauté qu'il m'a donnée, car c'est un vrai cadeau, et je le prends comme ça, de vous avoir sur mon chemin. Alors moi aussi je veux être un serviteur de notre communauté, de cette église, de l'épouse du Christ, et j'espère que ça pourra être aussi votre prière. Peut-être Edou, tu peux prier justement pour notre communauté.
Demandez de vous lever ensemble. Seigneur, nous sommes devant toi et nous sommes heureux de faire partie de ta famille, Seigneur. Et au-delà de tout ça, nous sommes heureux d'avoir des frères et sœurs autour de nous et nous voulons en prendre soin comme tu prends soin de nous, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous as placés ici ce matin. Et tu veux nous bénir, et tu veux encore faire grandir notre communauté. Merci Seigneur parce que tu nous donnes les moyens, et tu nous permets tout cela. Amen. Amen.